cours d'économie.
À toutes et à tous, bonsoir. Le prix du kilo de la viande de bœuf passe du simple au double sur les marchés de Goma dans le Nord Kivu, soit de 3 à 6 dollars le kilo. Les fermiers ne savent plus alimenter les marchés comme il se doit. Les fermes sont occupées dans le Massissi par le M23. L'invité de l'économie ce soir est Madame Joëlle Billet, femme politique et défenseuse des droits des femmes. Elle plaide en faveur de la suppression de la TVA sur les produits de protection hygiénique des femmes. Voilà pour le titre. Bienvenue à tous. Nous ouvrons Écoute Économie par Goma, dans le Nord Kivu, où l'on observe depuis quelques temps maintenant la rareté de la viande de bœuf sur les marchés. Cette rareté a entraîné du coup la hausse du prix de la denrée. Un kilo qui se vendait à 3 dollars se vend actuellement à 6 dollars américains. Les fournisseurs hébergés évoquent l'occupation de plusieurs fermes par les rebelles du M23 dans le Massissi. Denis Lukiso.
Selon les fournisseurs rencontrés à la société abattoir de Goma Sabago, chaque vache quittant Massissi pour Goma paye 20 dollars comme taxe dans les zones occupées par les rebelles. Pour échapper à cette tracasserie, certains ont résolu de faire passer leurs vaches par les lacs. Témoignage.
Les vaches provenaient de plusieurs fermes de Mushaki, Ngungu et ailleurs. Aujourd'hui, elles n'arrivent plus à cause de la guerre. D'autres provenaient de petits marchés locaux dans cette région, mais aujourd'hui, rien. Maintenant, les fournisseurs font maison à maison, là où il y a un peu de sécurité. Ils amènent quelques-unes et les acheminent jusqu'au bord du lac pour les embarquer dans un bot dans la zone du M23 pour faire passer une vache, c'est 20 dollars. Il ne pose aucun problème. C'est question juste de payer et tu passes. Il revient maintenant à toi, le fournisseur, de récupérer ton argent en majorant le prix de vente.
Signalons qu'actuellement, un kilo de viande de bœuf se négocie entre 5,5 et 6 dollars auprès des détaillants dans les boucheries, alors que peu avant la guerre, les kilos se vendaient à 3 dollars. Et une vache génisse à l'achat coûte entre 700 et 750 dollars, alors qu'elle coûtait 300 dollars auparavant.
Nous retournons dans la province du Nord Kivu, la province qui fait face de manière cyclique à des crises sécuritaires, notamment la résurgence actuelle du M23 qui occupe une grande partie des territoires de Massissi et de Rutshuru. Cependant, cette question sécuritaire est toujours liée à l'exploitation des minéraux ou encore des richesses naturelles en général, estiment plusieurs sources. Localement, des voix se lèvent de plus en plus pour dénoncer l'existence d'un réseau de contrebande minière qui fonctionne depuis très longtemps et qui aurait pris de l'ampleur ces derniers temps avec l'occupation de plusieurs entités par la rébellion du M23. C'est non seulement cette contrebande qui alimenterait les pays voisins, notamment le Rwanda accusé d'agresser la RDC, mais aussi l'insécurité permanente dans la région. C'est un dossier de Sifa Maguru.
Tous les acteurs sociopolitiques avec lesquels nous avons échangé font les constats selon lesquels l'occupation par le M23 des entités et axes routiers importants des Massissi et Rutshuru affecte les activités minières et cela au profit de la contrebande. Le grand défi pour les autorités, c'est qu'il est difficile, sinon impossible, d'arrêter complètement les activités minières dans le Massissi, car elles font vivre des milliers de personnes. Elles comportent aussi d'autres aspects complexes. Pour certains, la fraude minière serait due, entre autres, à la mauvaise politique du gouvernement en matière d'exploitation minière. Plusieurs investisseurs préfèrent s'installer dans les pays voisins, notamment les Rwanda, et acheter les minerais de la fraude, au lieu de venir directement en RDC. C'est ce que pense le coordonnateur de l'exploitation artisanale dans les Massissi, l'honorable Justin Ndaïchimié, qui revient ici sur certaines faiblesses observées.
Depuis que Madame la ministre a retiré, a déchi le PE 4731, elle n'a pas créé directement ou bien réattribué ce PE à aucune autre société pour que cette société puisse gérer les coopératives qui encadrent les exploitants artisanaux dans cette partie du pays. Cela fait que le fait de ne pas canaliser ces minéraux, cela amène encore à des exploitants à chercher à aller se trouver d'autres marchés ailleurs. Deuxièmement, depuis que la route de Mushaki et la route de Karuba sont bloquées par les agresseurs, les entités de traitement qui étaient installés à l'est de la République, ils ont fermé les portes.
Pour sa part, la présidente de la Chambre des mines du Nord Kivu et directrice générale de l'entité de traitement Kivu Minerals Resources confirme ici l'impact de la guerre du M23 sur leurs activités. Madame Yvette Mwanza.
Quand vous exportez le coltan se vend plus cher que la castérite. Donc tous les exportateurs ont intérêt à exporter plus de coltan que la castérite. Et quand vos exportations du coltan sont à la baisse, ça dit que ça impacte votre chiffre d'affaires et même le bénéfice. Donc pour les exportateurs du Nord Kivu, c'est vraiment un grand souci parce que le coltan nous échappe. Les autres provinces produisent du coltan, mais ce n'est pas à la même proportion que le Nord Kivu.
Entre autres recommandations, l'honorable Justin Ndayishimiye demande au gouvernement de protéger les investisseurs, mais aussi de lutter contre la concurrence des prix du coltan notamment.
Que nous puissions créer des marchés qui essaient de concurrencer les marchés du Rwanda, puisque c'est vraiment incompréhensible de voir que vous pouvez prendre un kilo de coltan. Si vous l'amenez au Rwanda, vous allez vendre ça à 70$, voire 80$. Mais chez nous, à Goma, les mêmes kilos de coltan, vous allez vendre ça à 30$. Donc, c'est vraiment inexplicable.
Selon nos sources, malgré la fraude, l'État exerce tout de même son contrôle sur l'évacuation d'autres quantités de minerais en provenance de Rubaya, en passant par Minova, Bukavu, puis Goma, ainsi que de Walikale, Hombo, Bukavu pour Goma.
Écho d'économie.
Place à présent à l'invité de l'économie. Supprimer l'imposition de la TVA sur les produits de protection hygiénique des femmes, c'est le plaidoyer que mène actuellement Joëlle Billet, femme politique et défenseuse des droits des femmes. L'activiste est persuadée que détaxer ces produits est une arme efficace pour lutter contre ce qu'elle qualifie de pauvreté menstruelle qui touche plusieurs filles et femmes. Joëlle Billet, l'invité de l'économie, femme politique et défenseuse des droits des femmes, explique les raisons de sa démarche dans cet entretien avec Cynthia Bachiz Nabizana.
Joëlle Billet, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Alors, détaxer les produits menstruels, notamment les serviettes hygiéniques, les tampons, dans le langage courant, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que simplement à la faveur de la Journée internationale de la femme qui avait pour thème « Investir dans la femme », j'ai jugé qu'il fallait d'abord commencer par investir dans la jeune fille. Parce que tous les 3-5 jours par mois, la jeune fille s'absente de l'école par pauvreté menstruelle. Qu'est-ce que ça veut dire la pauvreté menstruelle ? C'est simplement le manque d'accès à l'eau propre, le manque d'accès à des toilettes individuelles, le manque d'accès à du savon et bien entendu le manque d'accès aux serviettes hygiéniques. Ces serviettes hygiéniques, à ce jour, sont taxées premièrement d'un droit de douane d'importation d'environ 10%, de la TVA de 16% et à côté de cela, vous ajoutez des droits connexes, ce qui ramène ce produit qui est malheureusement aujourd'hui considéré comme un article de luxe, en tout cas catégorisé tel quel par les douanes congolaises. Ces serviettes hygiéniques sont taxées aujourd'hui de pratiquement 40% de leur valeur initiale. Et à ce titre, les ménages, les familles ont du mal à offrir à leurs jeunes enfants ce produit qui est de première nécessité et qui devait être comme l'eau, comme l'huile, comme la farine.
Est-ce qu'il y a des études à ce stade qui ont été faites sur le poids financier que représentent justement tous les produits d'hygiène féminine ?
Oui, ça a été fait. Je pourrais mettre à vos dispositions des chiffres, mais ce dont je vous parle aujourd'hui, ne pensez pas qu'il s'agit là d'une invention congolaise. Pas du tout. Il y a des pays, je vais vous prendre rien que le cas du Kenya, est le premier pays au monde à avoir détaxé les serviettes hygiéniques, c'était en 2004. Derrière, plusieurs pays ont emboîté le pas. Rien qu'en Afrique, je peux me limiter à l'Afrique du Sud, au Libéria, qui est pourtant un pays pas très riche, pas si riche que ça, et à côté de nous, au Rwanda, qui depuis 2019 a considéré ce produit-là, ces articles mensuels, comme étant des produits de première nécessité. Et il faut revenir au besoin premier. Le besoin premier, c'est de créer une égalité de chance entre la jeunesse jeune fille et le garçon à pouvoir accéder de la même manière à l'enseignement. Si la jeune fille manque les cours pendant pratiquement 2 mois sur une année scolaire, ce qui représente 20% de sa participation en classe, elle part déjà en défaveur par rapport à la gente masculine. Et cela, nous avons beaucoup de chance aujourd'hui en RDC parce que, premièrement, nous avons un président de la République qui est, il le dit lui-même, il a été décrété par ses pairs, champion de la masculinité positive. Et l'occasion faisant le larron, nous avons aujourd'hui, pour la première fois de notre histoire, une femme première ministre qui va être, je le suppose, sensible à cette cause et faire en sorte de pouvoir user de son droit dérogatoire que lui donne l'article 14 dans le paragraphe des tarifs pour justement modifier cette tarification et cette fiscalité et faire en sorte que les serviettes hygiéniques soient détaxées et qu'il n'y ait plus de pauvreté menstruelle, parce que vivre ces règles dignement, c'est aussi un droit.
Justement, voilà. Vous parlez de la gente masculine, mais de manière générale, est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui une différence de prix entre les femmes et les hommes sur des biens de consommation plus ou moins équivalents ?
Je ne saurais pas vous parler de tous les autres produits. Je ne vous parle spécifiquement que de celui-là, qui n'est pas un bien de consommation comme n'importe lequel. Il est au même degré un produit de première nécessité comme lait, l'eau, par exemple, comme l'est dans notre pays l'huile, la farine et dans le domaine immobilier le ciment, qui eux ont déjà été détaxés des 16% de la TVA. Ils ne sont plus assujettis à ces taxes-là. Ça veut donc dire qu'on doit prendre la mesure de la question, parce qu'il s'agit là en tout cas d'un enjeu sanitaire, d'un enjeu du point de vue de l'éducation et d'un enjeu du point de vue de l'instruction pour permettre justement un développement de notre pays. Je sais qu'il y a des initiatives, par exemple à Bukavu, des femmes qui ont mis en place des techniques avec des serviettes jetables, mais notre pays ne devrait pas s'offrir au monde comme étant celui qui ne prend que des situations, des solutions palliatives. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de toilettes adéquates. On peut prendre rien que le cas des déplacés de guerre à l'Est. Ils n'ont ni eau, ni toilettes, ni savon. Donc ce ne sont pas des serviettes jetables qui sont utiles pour ces personnes-là. Il faut leur permettre aujourd'hui, avec le faible pouvoir d'achat qui est le nôtre, de pouvoir bénéficier de cette détaxe des produits mensuels pour permettre justement à ce que dignement l'homme et la femme se considèrent comme égaux devant quelques situations ou enjeux que ce soit.
Joël Billet, je vous remercie.
Merci à vous, chères dames, Cynthia Bachizi et Joël Billet. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Ce numéro se referme, mais vous pouvez les retrouver à tout moment sur www.radiocapi.net.